Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Maïder Gérard, Corentin Mansois, réalisée par Anna Holweck et mise en onde ce matin par Jean-Guilain Meige. Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à la corruption. Après avoir évoqué lundi la corruption systémique qui frappe certains appareils d'État africains, mardi la corruption comme outil d'influence, notamment pour la Russie et pour la Chine. Hier, nous parlions du rôle de la société civile dans la lutte anticorruption. On termine aujourd'hui avec un fléau qui dépasse largement les frontières des États, celui de la corruption dans le sport. La corruption, un sport de haut niveau, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
L'affaire n'a rien à voir avec du football, mais elle ébranle l'une de ses figures, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Il est mis en examen pour corruption active. C'est un nouveau scandale pour le patron du PSG.
Ici à Split, la plupart des fans de foot ne l'aiment pas. Il est du côté de Mamic, et Mamic est un criminel. Donc pour beaucoup de supporters, Luka Modric est aussi un criminel. Au début, les gens l'aimaient. Mais le scandale de corruption avec Mamic a un peu changé les choses.
Ce que je peux confirmer, c'est qu'une enquête a été menée par la police nationale contre une organisation de sport dans le football professionnel et 9 personnes ont été arrêtées. Le sport doit par-dessus tout être propre et le fair play doit régner dans tous les sports espagnols.
Des pots de vin versés pour obtenir l'organisation d'une compétition internationale au match de foot de 3e division, truqués pour faire gagner un parieur généreux. La corruption existe dans toutes les disciplines et à tous les niveaux. Un fléau que personne ne veut voir tant il brise l'idéal de la glorieuse incertitude qui rend le sport si excitant pour le public. Mais depuis l'arrestation des 7 hauts responsables de la FIFA en 2015... La succession des scandales rend le déni de plus en plus difficile et l'omerta commence à se briser. Rien que ces dernières semaines, le patron du PSG, Nasser Al-Khelaifi, on l'entendait, a été mis en examen pour corruption active dans le cadre de l'attribution des mondiaux d'athlétisme au Qatar. 2 anciens joueurs du Real Madrid ont été placés en garde à vue en Espagne dans une affaire de paris truqués. La justice française a récupéré l'intégralité des documents des Football Leaks qui devraient permettre de relancer plusieurs enquêtes. Alors comment expliquer cette multiplication des affaires? À qui profite justement cette corruption et quels sont les dispositifs et les lois destiné à y faire face? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous. D'abord, Carole Gomez, ici à Paris. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse à l'IRIS, une spécialiste du sport dans les relations internationales, co-auteur notamment avec Sylvie Matelli de Argent sale, à qui profite le crime, qui était paru chez Erol, et il était question notamment de sport, et toujours s'agissant du sport, l'intégrité dans le sport, qui était paru aux éditions
UPRR.
Voilà, UPRR. À nos côtés, mais depuis Lausanne, en duplex, Hervé Reynard, bonjour.
Bonjour.
Merci. Reynard, pardon, excusez-moi d'avoir écorché votre nom, maître d'enseignement et de recherche en sciences politiques à l'Université de Lausanne. Alors, cette corruption, c'est vrai que ces dernières années, ces derniers mois et peut-être même ces dernières semaines, on a le sentiment que les choses s'accélèrent. J'évoquais Carole Gomez, les soupçons qui pèsent sur le patron du PSG qui a été mis en examen pour corruption active pour l'attribution des mondiaux d'athlétisme au Qatar. J'évoquais aussi ces arrestations du côté de l'Espagne dans le milieu du foot. Est-ce que vous diriez, Carole Gomez, qu'il y a là une augmentation du phénomène de corruption dans sport, ou que c'est plus simplement devenu plus visible, ou que peut-être la lutte est en train de s'affiner et que, eh bien voilà, les affaires sortent de plus en plus. Comment comprendre les choses?
Il est assez compliqué d'analyser ça, mais ce qui peut être intéressant de noter, c'est qu'il ne faut pas forcément avoir tendance à y voir une augmentation structurelle du nombre d'affaires. C'est simplement qu'il y a aussi une tolérance qui est moindre et des outils de lutte contre la corruption qui sont de plus en plus développés. Et c'est aussi ça qui est important de retenir, c'est le fait qu'il y ait une multitude d'affaires qui sortent en ce moment ne veut pas dire qu'il y en a plus qu'avant. Mmh. C'est simplement qu'elles sont plus visibles et que un petit arrangement à l'amiable qui pouvait être accepté auparavant aujourd'hui n'est plus du tout acceptable. Donc c'est dans le domaine du sport, à l'instar de ce qui se passe dans la société de façon générale, ce qui était toléré il y a encore une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ne l'est plus désormais. Et aussi, pour faire un lien avec la société, avec le milieu de l'entreprise, il ne faut pas oublier qu'il y a de ça une quinzaine, vingtaine d'années, il était possible de déduire ses pots de vin au niveau de ses impôts pour une entreprise. Et donc c'est aujourd'hui quelque chose qui est complètement inadmissible, à juste titre. Et donc, c'est aussi dans cette veine-là que s'inscrive la lutte contre la corruption dans le domaine du sport.
Hervé Reyner, vous faites la même interprétation des choses, une tolérance moindre, un meilleur système de lutte, des lois aussi qui ont changé. C'est tout ça qui explique peut-être cette augmentation, en apparence en tout cas, du phénomène de corruption dans le sport ?
Oui, tout à fait. Disons que c'est multifactoriel, hein, mais disons que ce qui est décisif selon moi, hein, ce sont ce que j'appelle les variations de la jouabilité de la dénonciation. Hein, c'est-à-dire que des pratiques de corruption peuvent être très institutionnalisées et ce faisant, elles rendent la dénonciation difficile. Hein, ce qui se passe, c'est alors le scandale de la FIFA en 2015, effectivement, a été suivi par d'autres scandales, ce qui arrive souvent. Hein, c'est-à-dire que les scandales arrivent souvent par série, hein, c'est-à-dire c'est des enchaînements, des concaténations. Et c'est dû au fait que ces scandales sont à la fois le produit et le producteur d'une variation de la jouabilité de la dénonciation, qui est due au fait que ces scandales sont faits de mobilisations qu'on appelle multisectorielles, c'est-à-dire qu'ils surviennent simultanément dans et entre plusieurs espaces sociaux, et qu'en plus, ces mobilisations, affectent les perceptions des acteurs dans ce qu'ils estiment faisable ou pas, ici et maintenant, hein, dans leur environnement immédiat.
On reviendra justement sur cette question de la jouabilité de la dénonciation et en particulier sur cette affaire, le FIFA Gate, qui est évidemment un point peut-être important sur lequel il faudra revenir. Quand on regarde, Carole Gomez, l'Europe, on voit qu'il y a plusieurs pays qui ont été touchés par la corruption dans le sport. Il y a l'Espagne que j'évoquais à l'instant. Il y a la Belgique il y a quelques mois aussi avec des manipulations de matchs liées à des paris en ligne. Il y a la France aussi, vous parliez tout à l'heure de petits arrangements. Bah, il y a la célèbre affaire notamment OM Valenciennes dans les années tapis. Il y a évidemment l'Italie avec notamment le Calcio Scommesse en 2012 qui avait envoyé plusieurs joueurs et entraîneurs en prison, sachant que le pays avait déjà vécu des scandales du même ordre. Il y a le Totonero en 1980 qui avait coûté une descente en série B à l'AC Milan et en 2006 le Calciopoli qui lui avait privé la Juventus de 2 titres et l'avait envoyé aussi en série B. Est-ce qu'il y aurait en Europe des pays plus touchés que d'autres par la corruption dans le sport ? Est-ce que l'Italie, par exemple, que j'évoquais, serait plus exposée à la corruption dans le sport ?
Il est assez compliqué de répondre à cette question puisque le principe de la corruption, c'est d'être assez invisible et assez, perceptible, mais à un certain nombre d'années postérieures. Mmh. Et ce qui est intéressant dans tous les exemples que vous avez cités, il y en a un qui manque, c'est le scandale de Bochum qui se passe en Allemagne et qui, en fait, a montré à quel point la corruption ne devait pas du tout s'entendre d'un point de vue national, mais bien au contraire transnational. L'affaire de Bochum, ça partait d'une enquête de policiers qui traquaient des proxénètes et qui se sont aperçus qu'ils parlaient beaucoup de sport de façon peut-être un peu trop importante pour que ce soit juste un intérêt personnel. Et en continuant leurs écoutes, ils se sont rendus compte qu'on parlait de corruption, de matchs truqués dans différents championnats, voire même en Champions League, ou en qualificatif de Coupe du Monde masculine. Et donc c'était aussi ça qui est important aujourd'hui à prendre en compte, c'est qu'on n'est plus du tout dans une logique nationale à un problème local, mais bien au contraire dans une menace transnationale et qui donc nécessite une réponse à la hauteur du problème. Et c'est aussi pour ça qu'on voit une multiplication d'initiatives continentales, nationales, mais également internationales, par différents organismes qui ont saisi cette importance et qui essayent de maintenant se mettre en ordre de bataille pour apporter une réponse.
On va revenir évidemment sur ce point précis de la transnationalisation de la lutte qui est évidemment décisive. Hervé Reyner, est-ce qu'il y aurait des... Parce que là, on parle beaucoup de foot. Est-ce qu'il y aurait des sports qui seraient plus touchés que d'autres ou finalement la corruption, elle se trouve là où il y a de l'argent et donc il y a une corrélation assez directe entre les revenus rapportés et l'ampleur de la corruption, ce qui pourrait expliquer par exemple que le foot soit particulièrement touché parce que voilà, c'est une économie colossale, peut-être la plus importante dans le sport européen, Hervé Reyner.
Oui, alors déjà, bon, le terme de corruption est très polysémique. Hein, il renvoie des pratiques très différentes, y compris d'un point de vue pénal. Mais il y a de la petite corruption, hein, y compris dans le sport amateur. Hein, ça arrive, on sous-doit des arbitres ou des dirigeants. Hein. Et puis, il y a évidemment de la corruption beaucoup plus systémique, hein, beaucoup plus institutionnalisée. Donc, effectivement, ce qui crée des opportunités, c'est quand même l'augmentation très, très spectaculaire de l'argent généré par ce secteur. Hein, par exemple, hein, la FIFA en 1975 compte 13 salariés et puis 400 en 2013. Le chiffre d'affaires donc de la FIFA et qui est comparable d'ailleurs à celui du CIO, hein, c'est à peu près un peu plus d'un milliard d'euros par an. Hein, alors argent qui provient essentiellement de la Coupe du Monde de football pour la FIFA hein, et donc des Jeux Olympiques pour le CIO et qui est réparti donc ça fait un peu plus de 5 milliards mais qui est réparti en 4 ans. Hein. Et donc c'est une manne financière effectivement qui enfin chaque tous les 4 ans. Hein, c'est vraiment la manne, la poule aux œufs d'or. Sachant que les droits télévisés, hein, qui sont la recette principale, ont été par exemple décuplés entre la Coupe du Monde 98 en France et celle de 2002 en Corée du Sud et au Japon. Donc effectivement, il y a des sollicitations, il y a des opportunités et il y a des détournements qui peuvent être plus ou moins faciles en fonction de cultures institutionnelles qui peuvent prévaloir dans telle ou telle organisation.
Carole Gomez, est-ce qu'il y a des disciplines plus touchées que d'autres? Et autre question que je glisse derrière, est-ce que à mesure qu'on monte en termes de niveau sportif, la corruption est quand même moindre, parce qu'on imagine, a priori en tout cas, que le contrôle est plus important chez les professionnels que chez les amateurs. Par exemple, Hervé Renner nous disait il y en a aussi chez les amateurs, mais on se dit qu'a priori, plus on monte en niveau et plus les contrôles sont stricts.
Pour le coup, moi je verrais trois éléments importants à avoir en tête quand on s'intéresse à la corruption dans le sport et pour étudier c'est les sports les plus touchés, évidemment la rentabilité et le fait qu'il peut y avoir énormément de chiffres d'affaires et donc d'argent à toucher, à retirer. Il y a aussi la question de la facilité de la corruption. Dans le cadre, par exemple, du football, il va être aisé de corrompre un arbitre ou de corrompre un gardien qui pourra avoir un impact réel sur le domaine du match. Et il y a aussi la question de la surveillance, ce que vous notez, avec la différence entre le sport professionnel et le sport amateur. Et effectivement, on va avoir tendance à trouver plus de matchs, plus de corruption dans les classements de 3e, 4e, 5e division que dans des domaines, dans des matchs qui vont être diffusés à l'échelle entière. Concernant les sports, ça va vraiment dépendre et c'est exactement ce que disait Hervé Renner, c'était la question. Il va y avoir un fort identité nationale qui va aussi dépendre. Par exemple, je prends un exemple dans le domaine. On a tendance à imaginer que le football est le sport le plus touché. Il ne faut pas non plus sous-estimer les affaires de corruption dans le tennis qui peuvent exister et notamment sur des concours, des tournois qui sont pas forcément très bien cotés, et ça on y reviendra tout à l'heure, mais il y a aussi par exemple dans certains pays, on sait que le basket, notamment en Grèce ou en Turquie, est extrêmement présent, populaire, qui génère énormément de ressources, et on a vu un certain nombre d'affaires de corruption émerger dans ce domaine-là, parce que justement, c'était populaire, il était facile d'arriver à corrompre un individu proche du club ou au sein de l'arbitrage, et il y avait une surveillance qui était peut-être un peu moindre que sur certains sports où on peut penser le football va être peut-être le sport le plus surveillé, même si ça n'empêche pas qu'il y ait des scandales qui arrivent.
On reviendra évidemment sur la question tout à l'heure du tennis avec Bertrand Finker, qu'on accueillera tout à l'heure par téléphone. Hervé Renner, je voudrais qu'on revienne un instant sur ce qu'on va appeler l'affaire Nasser. Donc cette affaire de corruption pour l'attribution des mondiaux d'athlétisme, alors qui est une affaire assez compliquée, mais ce que le juge Van Rombeek reproche à Nasser El Khaifi, c'est le versement de 3,5 millions de dollars d'une société, en l'occurrence Oryx, dont il est co-détenteur avec son frère, à une société dirigé par le fils de l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, avec un système par lequel la société Oryx a vendu des droits télé à la chaîne Bein Sport, qui est par ailleurs dirigée par Nasser El Khaifi lui-même. Alors, on va pas discuter sur le fond du dossier, dont on connaît pas les détails. En revanche, ce qui est intéressant de regarder, c'est la défense de l'avocat, en l'occurrence Francis Spinner. Ce que dit Maître Spinner, je le cite, hein, puisqu'il n'existe aucun lien de rattachement entre les faits en question et le territoire français, aucun élément ne vient justifier la compétence de la loi française ou des juridictions françaises sur de prétendues infractions de surcroît prescrites. Donc ce qu'on voit tout de suite apparaître, c'est cette stratégie qui consiste à échapper à la justice et au droit national. Et donc la nécessité, c'est ce que disait tout à l'heure Carole Gomez, de penser cette lutte contre la corruption dans une perspective transnationale. Hervé Renner.
Tout à fait. Oui, tout à fait.
Alors, on voit apparaître dans le système de défense de l'avocat de Nasser.
Oui, ça me rappelle d'ailleurs un courrier alors qui a été intercepté, parce qu'il se trouve que avant déjà le FIFA Gate, hein, il y a eu une histoire au sein de la FIFA assez importante avec l'exclusion du dirigeant de la fédération asiatique, hein, le Qatari Bin Hamman, donc qui en plus dirigeait la candidature du Qatar à l'organisation de la Coupe du Monde. Et il se trouve que son ordinateur au siège de la fédération asiatique à Singapour a été hacké, et c'est deux journalistes britanniques qui ont eu la correspondance privée. Et dans cette correspondance, on trouve trouve un conseil d'un juriste suisse, ou même Binaman, hein, et qui lui dit qu'il n'a rien à craindre du côté suisse, puisque la corruption privée n'est pas considérée comme un délit, et que de toute façon, un tas de facteurs institutionnels le garantissent. Donc effectivement,
donc,
les
acteurs
jouent.
C'est une pratique bien connue, on sait comment s'y prendre. Alors la question, Hervé Reiner, je vous la pose tout de suite, qu'est-ce qu'on a fait en termes de progrès, d'avancée, s'agissant de cette transnationalisation de la lutte? Parce qu'on voit bien que c'est ça qu'il faut faire.
Alors, de ce côté-là, c'est très difficile, parce que c'est déjà difficile de le faire à l'échelle nationale, hein, à l'échelle stato-nationale, donc a fortiori à une échelle internationale, c'est très compliqué. Hein. Disons que, bien souvent, la FIFA ou le CIO vont lancer des réformes dans le sillage même des scandales, puisque ces réformes sont des réponses, hein, pas forcément des réponses en termes où il s'agira vraiment de combattre la corruption, c'est plutôt de l'affichage, mais qui vise surtout, d'ailleurs, à recloisonner, disons, le litige, hein, c'est-à-dire à faire en sorte que l'institution reprenne la main, notamment en termes de calendrier, en nommant un comité d'éthique, en adoptant un nouveau code, etc., etc.
Mais ça, c'est interne à la fédération, en l'occurrence.
Exactement.
Ouais.
Mais la fédération, elle est internationale. Il ne faut pas oublier que la FIFA et le CIO, c'est du transnational.
Mais sur la réponse judiciaire, en termes de droit, est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce qu'on est en train de construire des dispositifs transnationaux qui permettent justement d'aborder cette question de la corruption dans le sport de façon transnationale?
Alors oui, il y a des tentatives qui sont aussi très anciennes. Hein. Rappelez-vous, c'est l'appel de Genève dans les années 90, hein, de ces magistrats instructeurs qui voulaient s'allier donc Suisse, Italien, Français, etc. Hein, parce que évidemment, hein, leur requête n'aboutissait pas dès qu'il s'agissait de franchir les frontières. Donc voilà, il y a une inertie.
Et l'appel a abouti à quelque chose?
Bah non, enfin il y a une mobilisation sur le moment, hein, mais qui est très vite retombée. C'est plutôt la lassitude qui l'emporte, y compris chez les magistrats instructeurs, hein, assez vite, parce que voilà, il y a des complications. Voilà, il y a quand même encore des souverainetés nationales, hein, et donc effectivement il y a des pays dont on sait que la lutte anticorruption n'est pas prête d'y être institutionnalisée. Hein, c'est plutôt la corruption qui est institutionnalisée, et donc ça offre forcément des sortes de sanctuaires pour des pratiques délictueuses.
Carole Gomez, sur cette question de la transnationalisation de la lutte. Alors, il y a un outil international qui existe, qui est un outil général de lutte contre la corruption, qui est la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui avait été adoptée en 2003. Je crois qu'il y a un volet spécifique pour le sport qui a été adopté plus tard, ça doit être 2017, mais sous réserve, vous allez me le dire. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? C'est quoi ce dispositif? Et est-ce qu'il marche un peu? Alors, d'accord, c'est assez récent, mais est-ce que ça, il est de nature à permettre de lutter contre la corruption, ou est-ce que finalement ça sert à rien?
Ça, c'est le propre du droit international public et des relations internationales, c'est de se dire est-ce que les conventions qui sont passées et qui sont accordées, mises en œuvre par un certain nombre d'États, ont une réelle efficacité? Certains sceptiques diront non, on pourrait au contraire penser qu'ils ont l'avantage d'apporter une pierre à l'édifice et de construire encore un peu plus les moyens de lutte contre la corruption. Pour le coup, pour répondre à votre question, j'aurais tendance à dire que si les choses bougent, c'est pas tant au niveau de la lutte, de l'organisation transnationale, mais plutôt d'initiatives, soit qui partent d'un pays. Et dans ce cas-là, dans le cas du FIFA Gate, et on va revenir dessus, tout est parti des États-Unis aussi, et du Department of Justice, qui a réussi à faire bouger grandement un certain nombre de choses, et qui en entraîne dans sa lignée, notamment la Suisse, la France, un certain nombre d'autres pays sur ces questions-là. Mais il y a aussi, pour faire un pont avec l'émission d'hier, avec la question de la société civile, où il y a énormément d'associations, de collectifs qui se créent pour mettre la pression sur la FIFA, pour essayer de porter, de demander des garanties sur les réelles réformes. Et ce que disait Hervé Finkers, c'était tout à fait juste en disant qu'il y avait...
Hervé Reiner. Ça fait deux fois qu'on écorche son nom. Hein.
En premier, c'est la dernière. Hervé Reiner qui expliquait c'est quelque chose qui est très lent, il y a une inertie qui est extrêmement importante, mais la question dans le domaine du sport de la... non pas la respectabilité, mais l'image de la FIFA ou de CIO ou de toute fédération internationale est extrêmement importante. Et ça, c'est un enjeu qui a très bien été saisi par ces organisations sportives-là, et qu'elles ne peuvent plus se permettre de ne rien faire et de faire le dos rond, ce qui a été le cas jusqu'à présent.
Mais si je reste sur la question du droit, par exemple, en Europe, on aurait pu imaginer des dispositifs améliorant la coopération entre les différents appareils judiciaires d'Europe, au moins en Europe. C'est le cas?
Alors, pour le coup, dans le domaine européen, il y a deux acteurs extrêmement forts sur la question de la corruption. et plus spécifiquement également sur la question des paris truqués, des matchs truqués. Il y a l'Union européenne qui a un rôle assez important, notamment avec les nouveaux, enfin, suite au traité de Lisbonne, où il y a de plus en plus de compétences qui sont prises en charge par l'Union européenne. Mais il y a également le Conseil de l'Europe qui est vraiment extrêmement novateur sur ces questions-là. Il y a un certain nombre de conventions qui ont été poussées, une collaboration entre des États, mais également avec des structures qui permettent de pousser plus loin les investigations, de croiser un certain nombre de données. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui que c'est pas forcément quelque chose qui part des organisations sportives internationales, mais au contraire qui sont prises par des organisations transnationales comme l'Union européenne ou le Conseil de l'Europe, mais également avec une collaboration avec des entités telles qu'Interpol ou Europol, par exemple.
Vous parlez du Conseil de l'Europe. Si je vous demande une affaire un peu notable sortie grâce aux efforts du Conseil de l'Europe.
Pour le coup, ça va pas être des... En fait, c'est aussi ça, c'est le rôle de la justice. Elle va intervenir a posteriori et non pas a priori. Donc c'est aussi ça qui va être important. La convention de Macolin, elle a permis de mettre une collaboration extrêmement importante, de mettre en place une collaboration extrêmement importante entre un certain nombre d'États. Et c'est aussi ça qui est intéressant de voir, c'est que c'est quelque chose qui bouge très lentement, certes, mais qui a tendance à évoluer.
Alors, le FIFA Gate, ça fait plusieurs fois qu'on évoque ce nom, une enquête qui portait sur des soupçons de corruption au sein de la Fédération Internationale de Football, qui éclate en mai 2015, lorsque plusieurs responsables de l'instance sont arrêtés dans le cadre d'une enquête menée par le FBI.
Si vous touchez nos côtes avec vos entreprises corrompues, que ce soit à travers des rencontres ou en utilisant notre système financier de classe mondiale, vous serez tenu pour responsable de cette corruption. Personne n'est au-dessus ou au-delà des lois. Cette affaire a demandé un travail colossal de la part de procureurs et enquêteurs talentueux, et ce travail en valait la peine selon nous.
J'ai profondément réfléchi sur ma présidence. La FIFA a besoin d'une profonde restructuration. Bien que les membres de la FIFA m'aient conféré ce nouveau mandat, ce mandat n'a pas le soutien de l'intégralité du monde du football, et j'entends par là des supporters, des joueurs, des clubs. C'est pourquoi je remettrai mon mandat à disposition lors d'un congrès électif extraordinaire.
Voilà. Action, réaction. La première voix que vous entendiez, c'était celle de James Comey, le patron du FBI. La deuxième, celle de Sepp Blatter, donc l'ancien patron de la FIFA qui a démissionné. Je rappelle donc ce FIFA Gate. Plusieurs membres de la FIFA soupçonnés d'avoir sollicité et reçu plus de 150 millions de dollars en pot de vin sont arrêtés dans un hôtel de Zurich. Ils s'apprêtaient à assister à un sommet de la Fédération Internationale de Football, et quelques semaines plus tard, et Sepp Blatter et Michel Platini vont être suspendus pour plusieurs années. Alors, il se trouve que la FIFA vient d'ouvrir, Hervé Renner, son 69e congrès à Paris, au cours duquel le nouveau patron, donc Gianni Infantino, a été reconduit. Il était le seul candidat, donc c'était pas très difficile. Lors de son discours inaugural, il a parlé d'une nouvelle FIFA. Aujourd'hui, personne ne parle de crise, de scandale ou de corruption. On parle d'une organisation qui parle de football, a-t-il dit hier à Paris. Alors, Hervé Renner, 4 ans après le FIFA Gate, est-ce qu'on peut dire que, ça a marqué une rupture dans la gestion des affaires et que la corruption, désormais, c'est une affaire ancienne?
Alors disons que
je vous entends rire d'ici, Hervé Renner.
Oui, disons que le FIFA Gate a quand même marqué une rupture. Hein. C'est-à-dire que jusqu'à présent, parce que les accusations de corruption visant des dirigeants de la FIFA sont assez anciennes. Hein. On en trouve d'ailleurs souvent, c'est pas un hasard, à la veille des congrès. Hein, parce que alors là, il se trouve qu'il y avait qu'un seul candidat. Donc, mais quand il y a une concurrence, c'est aussi des luttes intestines qui peuvent parfois sortir de l'institution, hein, pour peu que des magistrats s'en emparent. Mais jusque là, l'institution, jusqu'en 2015, la FIFA était toujours parvenue à canaliser, à cloisonner les accusations. Il y a eu des accusations très sévères. Je rappellerai en 2002, il y a 5 des 7 vice-présidents de la FIFA qui demandent la démission de Blatter à la suite du krach de la société ISN, donc qui détenait les droits de télévisés des Coupes du Monde, qui fait un krach à hauteur de 300 millions de francs suisses, avec là aussi des détournements assez importants. Mais finalement, un tas de collusions interinstitutionnelles, par exemple le fait que donc ces 5 vice-présidents portent plainte à Zurich, et le procureur ne fait rien de leur plainte, hein, par exemple, ce qui sera évidemment un des signes de maintien de collusion qui permettra à Blatter d'échapper à cette mise en cause, hein, mais qui était assez sérieuse. Alors en 2015, ce qui change, c'est que c'est multisectoriel. Et ce qui change, évidemment, c'est qu'on a 3 institutions américaines qui simultanément et de façon coordonnée, hein, puisque on a à la fois le dirigeant du fisc américain, le dirigeant du FBI, comme vous l'avez souligné, et la ministre de la Justice, qui par ailleurs était procureur à Brooklyn et donc s'était déjà occupé de l'affaire de la FIFA, donc qui font cette conférence de presse commune et qui se livrent à cette opération très spectaculaire qui a beaucoup choqué en Suisse, du fait que la police zurichoise a collaboré en quelque sorte avec les autorités américaines, ce qui pose toute l'enjeu de l'extraterritorialité. Mais le fait que des institutions réputées aussi puissantes interviennent dans les affaires internes de la FIFA a été perçu par, et à juste titre sans doute, mais par un tas d'acteurs comme étant un bouleversement, notamment des rapports de force. Et du coup, on a tout un tas de lâchages qui suivent cette opération. Par exemple, dans les médias en Suisse, dénoncer Blatter devient beaucoup plus facile qu'auparavant. C'est-à-dire, dans les jours qui suivent, on a des dénonciations très fortes qui jusque-là étaient auto-censurées de Sepp Blatter.
Alors, pourquoi ça éclate à ce moment-là, Hervé Rehner? Vous parliez tout à l'heure de jouabilité de la dénonciation. On y est. Pourquoi à ce moment-là, effectivement, on peut dénoncer en bloc ce phénomène de corruption au sein de la FIFA qui existe depuis des années, puis des décennies en réalité?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est les phénomènes émergents. C'est des boucles rétroactives sur ce que les acteurs estiment possible ou pas, sachant que ces acteurs s'influencent les uns les autres. C'est des phénomènes aussi d'auto-suggestion ou d'auto-intoxication quant à la jouabilité de la dénonciation. Et donc là, de voir ces trois organisations... Alors, les enquêtes sont menées de longue date. Elles sont sans doute dues, faut pas se leurrer, au fait que les États-Unis n'ont pas obtenu la Coupe du Monde auquel ils rêvaient. Il faut se rappeler, je sais pas si vous avez en tête, au moment de l'annonce, au moment où est annoncée l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar... Et avant à la Russie, on a Bill Clinton dans le comité américain. Ça se passe, je crois que c'est à Singapour de mémoire, et on le voit atterrer. Et puis évidemment les Qataris célébrer. Et ça a été un affront en termes de soft power pour les États-Unis de ne pas obtenir cette Coupe du Monde, quand bien même le football est un sport mineur aux États-Unis.
Attendez, vous sous-entendez que c'est parce que les États-Unis n'ont pas eu la Coupe du Monde que leur réponse judiciaire américaine s'est mise en route?
Oui, en grande partie, oui, okay. Tout à fait. Et aussi parce que le FBI a réussi à coincer un dirigeant américain, Chuck Blazer, et le fisc notamment, qui a lui-même été dénoncé, alors aussi pour des rivalités intestines initialement à la FIFA. Il y a aussi ce lanceur d'alerte, qui est ce journaliste écossais Andrew Jennings, qui a donné sa documentation au FBI, parce que c'est celui qui incarnait en quelque sorte la dénonciation de la corruption au sein de la FIFA depuis une dizaine d'années à ce moment-là, après s'être occupé d'ailleurs pendant une décennie précédente du CIO. Et donc, à ce moment-là, effectivement, alors... Ça dure des années, il y a des enquêtes. Ce Chuck Blazer, il est muni d'un micro et donc le FBI peut écouter les conversations des dirigeants des confédérations nord et sud-américaines. Donc, ils vont accumuler tout un tas d'informations et c'est sans doute grandement lié, effectivement, au fait que les États-Unis n'ont pas eu la Coupe du Monde. Alors l'Angleterre aussi, d'ailleurs, c'est pas un hasard non plus. C'est dans la presse britannique où les critiques se sont faites beaucoup plus fort sur la FIFA dans les années qui précèdent d'ailleurs le FIFA Gate.
La presse est une chose, normalement, dans les démocraties, la presse est indépendante, donc elle fait ce qu'elle veut. Elle dit ce qu'elle veut sur les affaires qu'elle veut. La justice américaine, c'est autre chose. Ce que j'entends, Carole Gomez, qui est quand même assez surprenant, que nous dit Hervé Rehner, c'est qu'au fond, dans l'éclatement de ce scandale de corruption, c'est moins une affaire éthique, morale, qu'une affaire politique, voire géopolitique, en réalité.
C'est-à-dire que le sport est apolitique.
Non, je vous pose la question.
Non, pour le coup, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et effectivement, on a tendance à sous-estimer l'importance des journalistes d'investigation. Alors effectivement, Andrew Jennings a été l'un des fers de lance, mais également d'un certain nombre de journaux britanniques qui ont fait des enquêtes sur ces questions-là, qui ont mis en avant un certain nombre d'irrégularités et qui ont levé un certain nombre de lièvres. Et c'est tous ces fruits-là qui ont été récoltés par le Department of Justice américain, et ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a conduit les autorités américaines à, une bonne fois pour toutes, s'intéresser à ces questions, ce d'autant plus qu'il y avait un certain nombre d'irrégularités à la FIFA, mais également au sein de leur confédération. Le fait qu'il y ait des irrégularités au sein de leur confédération, mais également avec un certain nombre d'autres confédérations, a été un mélange qui a fait que ce qui était tolérable jusqu'à présent ne l'était désormais plus et qu'il fallait agir.
Alors, Carole Gomez, je repose la question que je posais tout à l'heure à Hervé Rehner, à laquelle il n'a pas tout à fait répondu, mais c'est pas grave, on reviendra vers lui. Je vais recommencer avec vous. La corruption, c'est fini. Hier, Gianni Infantino, au congrès donc de la FIFA, il a dit la chose suivante. Il n'y a plus de possibilité pour la corruption. C'est la tolérance zéro. Ce qui s'est produit ne doit plus se répéter. Cela doit être clair pour ceux qui sont dans cette salle et en dehors. Donc, Bon, il y a le discours, évidemment, et puis il y a les actes. Quand on regarde un peu ce qu'a fait Gianni Infantino, est-ce que vous diriez qu'effectivement, il a amélioré le système, le dispositif pour que la corruption soit moins systémique, et quel est son bilan en la matière ?
Alors, concernant les évolutions qui ont été faites, en réalité, il n'avait pas le choix de les faire. Au moment où il y a eu le FIFA-gate, on s'est rendu compte que non seulement l'organisation, la FIFA, ne disposait pas d'un comité éthique suffisamment efficace et d'une transparence suffisamment importante pour pouvoir être crédible dans le message qu'il donnait. Et donc, il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites. Ces annonces, elles sont évidemment cosmétiques, et si on peut noter... on va dire certaines améliorations ou certaines choses qui apparaîtraient aujourd'hui impossibles de recommettre. L'étude au niveau du terrain et notamment de certaines fédérations montre qu'il y a encore des réflexes de corruption qui sont encore très présents. Alors après, c'est normal puisque c'est une lutte qui prend du temps, qui est de tous les instants et surtout de tous les niveaux, au plus haut niveau, mais également au niveau des confédérations et des fédérations, et éventuellement des clubs. Mais c'est quelque chose qui est... très compliqué de juger, puisque toutes les affaires qui ont éclaté, notamment dans le sport, alors on parle beaucoup de football, mais également dans le sport de façon générale, se sont souvent révélées quelques années après leur survenue. Et donc c'est aussi ça qui va être compliqué, c'est de se dire à l'instant T, cette promesse qui est faite par Gianni Infantino en juin 2019, potentiellement, elle sera complètement balayée s'il y a une affaire qui va éclater dans 2, 3, 4 ans, et qui montre au contraire qu'il y a une faille importante dans le dispositif de lutte.
Donc il faut encore attendre un petit peu. Hervé Rehner, même question, et puis je poursuis un tout petit peu, parce que à la FIFA, il y a un moyen très connu pour asseoir son pouvoir politique, c'est s'assurer évidemment du soutien des différentes fédérations de football. Et pour ce faire, on peut verser des centaines de millions de dollars aux différentes associations nationales. C'est 1,4 milliard de dollars aux 211 associations nationales sur les 4 années du mandat d'Infantino. Voilà, ça donne un tout petit peu une idée du pouvoir économique et donc politique que vous avez dans les mains quand vous êtes le patron de la FIFA, Hervé Rehner. Est-ce que ces versements se sont effectués selon des modalités différentes que ce qui avait cours jusqu'alors? Parce que quand il est arrivé, Infantino, il avait un plan précisément pour un peu assainir ce système de versement. Alors quel était le plan et est-ce que ça a marché?
Alors sans doute pas, si on dit que cette corruption est systémique, c'est qu'elle est précisément difficile à éradiquer, puisque ça renvoie à des façons de faire qui sont incorporées en quelque sorte chez les acteurs. Ce système clientéliste, vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est-à-dire que on a 211 États, ce qui est énorme, membres États, du plus petit au plus grand, et c'est une particularité de la FIFA, chaque pays compte pour une voix, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une fédération d'Océanie où il y a 50 licenciés, et puis vous avez le Brésil, l'Allemagne, etc., qui ont le même poids en termes de voix. Alors, ce qui a changé, c'est, et quelque part, c'est une mauvaise nouvelle, sans doute, pour ceux qui souhaiteraient éradiquer la corruption, c'est qu'auparavant, par exemple, pour l'obtention de la Coupe du Monde, il fallait convaincre les 24 membres du comité exécutif. Dorénavant, c'est les 209 membres du Congrès qu'il faut convaincre, puisque c'est le Congrès, maintenant, qui vote pour l'attribution des Coupes du Monde. Et donc, il faut, en quelque sorte, arroser beaucoup plus d'acteurs pour pouvoir l'emporter dans ce domaine. Et puis, effectivement, pour ce qui est de la tournée du président dans les différentes fédérations, c'est un système clientéliste bien connu, et puis avec beaucoup de népotisme. Par exemple, après le crack d'ISL, une des sociétés qui a pris les droits de téléviser de la Coupe du Monde, c'est la société Infront. Voilà, un neveu de Blatter était parmi les dirigeants, figurait parmi les dirigeants de cette société. Donc il y a du népotisme, il y a du clientélisme, bien sûr, c'est des échanges de bons procédés, entre guillemets, de cadeaux, d'enveloppes. Alors ça prend pas toujours la forme d'une corruption en bonne et due forme, si je puis dire, mais c'est sûr que c'est des échanges de faveurs qui sont très classiques, qui sont pas propres à la FIFA, qu'on retrouve dans un tas d'autres institutions.
Alors, je disais, ça n'a pas marché, et pourtant, il a essayé, Infantino, en tout cas, officiellement. Il avait un plan qui était baptisé Forward, pour justement un peu assainir et mettre un peu plus de contrôle sur le système de versement qui finance aussi des projets footballistiques dans tous les pays du monde, dans toutes les associations du monde, sauf que ce plan, visiblement, a été un échec. D'ailleurs, on le sait, parce que Infantino lui-même a envoyé un mail, ça a été révélé par la presse, dans lequel il dit que ça a été un échec. Alors pourquoi ça a été un échec, Carole Gomez? Pourquoi il n'y arrive pas?
Il y a de multiples raisons, tout simplement aussi parce que... on va dire la gestion de la FIFA, c'est une ancienne maison qui a eu des habitudes et pendant un certain nombre d'années a pu... faire de la politique sportive de la façon dont elle l'entendait. Et le fait de vouloir changer les règles du jour au lendemain n'a pas forcément plu à tout le monde et se heurte encore à, alors j'allais dire la vieille génération, mais ce serait discriminant envers des personnes plus jeunes, mais c'est aussi ces habitudes-là qu'il va falloir changer.
Au-delà des habitudes, pardon de vous couper, Carole Gomez, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de nature même de ces entités et de leur statut en particulier? La plupart de ces grandes, de ces fédérations, y compris ces fédérations internationales, sont des associations.
À but non lucratif, faut-il le rappeler.
À but non lucratif, alors même que, en termes d'argent, ça va à peu près bien pour la FIFA, pour le comité olympique, etc. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là un problème de statut, tout simplement? Est-ce que c'est pas ça, d'ailleurs, qui rend précisément ces entités particulièrement exposé à la corruption? Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à penser de ce côté-là?
Bien sûr, et ça me permet de mentionner que nous allons publier avec Pim Verschuren une revue internationale et stratégique justement sur ces sujets-là. D'accord. Et sur la nécessaire transition, on appelait la transition forcée des organisations sportives internationales, puisque vous avez tout à fait raison de le souligner, ce sont des associations à but non lucratif, principalement de droit suisse.
Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre?
Alors, ce qui va être important d'imaginer, c'est que le modèle actuel qui a été développé, et Hervé Renner avait tout à fait raison de le signaler, il y a encore quelques années, il y avait assez peu de monde qui travaillait au siège de la FIFA, tout simplement parce qu'on considérait encore que la FIFA était une petite entreprise familiale qui s'était développée dans l'arrière-cour d'une rue parisienne, et qui n'était pas du tout en adéquation avec les montants, les enjeux qui étaient présents. Donc c'est aussi ce qui va être important, c'est d'une part qu'il y ait cette volonté du mouvement sportif d'être en adéquation avec la réalité et les enjeux contemporains qu'ils doivent affronter, et puis ils vont être assez nombreux, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, mais également d'un point de vue de la nature du sport qui va changer. On a tendance à se diriger, même si on s'écarte du sujet, vers une ubérisation du sport.
Vous les trouvez enclins à envisager cette mutation?
Et elles n'ont pas forcément le choix, en fait. C'est aussi ça qui est important. Et alors, si on fait une toute petite aparté sur la question des matchs truqués, la fédération, un certain nombre de fédérations asiatiques, notamment dans le football, prenaient assez peu d'attention sur la lutte contre les matchs truqués. Et on s'est rendu compte que au moment d'acheter un ticket pour aller voir un match, on connaissait d'ores et déjà le score final. Les personnes se sont désintéressées de ce sport, ne se rendaient plus dans les stades, les sponsors ont abandonné, les médias s'en sont désintéressés, et le sport s'est complètement effondré. Mmh. Et donc c'est aussi ça qui menace le sport international, c'est de se dire que si des mesures ne sont pas prises rapidement pour lutter efficacement contre ces fléaux-là, le risque de désintéressement
est là. Hervé Renner, avant de parler du tennis dans un instant, sur cette nécessité d'aller vers une transition du statut de ces grandes organisations internationales qui sont des associations à but non lucratif, comme chacun le sait, puisqu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent.
Tout à fait, et d'autant plus que ce statut permet en Suisse d'échapper à ce qu'on appelle la loi sur la concurrence déloyale. Et donc c'est une protection supplémentaire pour ces associations. Elles sont en Suisse. Alors il se trouve que dans le sillage du FIFA Gate, le gouvernement suisse, le Conseil fédéral, s'est refusé de changer ce statut. Et quand bien même il voudrait le changer, il faudrait convaincre les deux chambres du Parlement, ce qui est évidemment pas gagné d'avance. Par ailleurs, je vous signale un titre d'information, dans 2 semaines sera inauguré le nouveau siège du CIO à Lausanne. Alors c'est un bâtiment qui a coûté 150 millions de francs suisses. Un beau bâtiment ultra moderne. C'est sûr qu'il y a un décalage flagrant entre le statut d'organisation à but non lucratif et ce que sont devenues ces deux organisations, c'est-à-dire qui emploient des centaines de salariés et qui gèrent donc un budget annuel supérieur à 1 milliard de francs. Et ça va beaucoup augmenter encore dans les années à venir. Et donc, effectivement, changer le statut, c'est pas du ressort de la communauté internationale. Hein, c'est en Suisse que ça se passerait, si ça devait se passer, et c'est pas gagné d'avance.
Oui, c'est pas gagné d'avance, d'autant qu'on assume assez largement le fait qu'on est là pour gagner de l'argent. Infantino a dit hier au Congrès de Paris, il faut qu'on assume d'avoir l'ambition de gagner plus de revenus. C'est pas exactement le verbatim, je l'ai pas sous les yeux, mais c'est l'idée générale. Assumons le fait qu'on veut gagner de l'argent. Donc évidemment, on voit que c'est une nécessité, reste à voir si cette transition va effectivement arriver. Hervé Renner, Carole Gomez, vous êtes nos invités dans cette semaine consacrée à la corruption et aujourd'hui à la corruption dans le sport. Vous parliez à l'instant de Paris truqué, on parlait tout à l'heure de tennis, on va y venir justement.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme. tout le monde, je trouve ça un peu scandaleux de vendre ses propres matchs ou d'accepter de perdre un set contre de l'argent. Faut travailler comme tous les joueurs l'ont fait pour monter. Et par la suite, il y aura de l'argent. Et encore plus dans certains pays de l'Est, on est vachement approchés. Moi, j'ai fait des matchs dans des challengers en Roumanie où il y avait une bande de 4-5 qui me supportait comme des dingues et le lendemain qui était complètement contre moi. Parce qu'ils avaient parié. Après, je peux me dire, voilà, ces joueurs-là, ils ont besoin d'argent pour voyager. Donc, quand on leur propose, pour eux, c'est très dur à se dire non, moi, je les prends pas. Ça se passe pas dans les 200 meilleurs. C'est très souvent des joueurs qui sont entre 500, 1000, 2000, et ça donne une mauvaise image. Et ça, c'est énervant.
Voilà, témoignage d'un joueur de tennis français, Lucas Pouille, en réaction à une affaire de corruption qui avait éclaté en janvier dernier. Une enquête du journal L'Équipe révélait une vaste affaire de matchs truqués impliquant une quarantaine de joueurs de tennis français de 2e et 3e division, soupçonnés d'avoir faussé de nombreuses rencontres lors de tournois en Europe, aux États-Unis ou en Afrique du Nord. Aux manettes, une organisation criminelle implantée en Belgique. Cette enquête, elle rappelait un petit peu ce qui avait été publié aussi par la BBC. 3 ans plus tôt, à la veille de l'Open d'Australie de 2016, qui incriminait un noyau dur de 16 joueurs classés à l'époque parmi les 50 premiers mondiaux. Et de fait, les matchs truqués constituent un problème évidemment récurrent dans le tennis depuis la massification des paris en ligne. Bertrand Finker, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne. Vous avez mené tout un travail d'enquête, vous, sur ce phénomène du trucage dans le tennis avec des entretiens auprès de joueurs professionnels. Une quarantaine de joueurs professionnels, là, concernés par cette affaire que j'évoquais, c'est du jamais vu. Est-ce que ça veut dire que le trucage des matchs de tennis, c'est devenu un phénomène en pleine expansion? C'est ça qu'il faut comprendre?
Alors, déjà, c'est pas tout récent, hein. Les premières suspicions remontent déjà au début des années 2000 et pas toujours avec des joueurs anodins, puisque même Kafelnikov, qui était ancien numéro 1 mondial, était déjà soupçonné de tricherie dans un match en 2003. Après, qu'il y en ait aujourd'hui une quarantaine, probablement, et c'est probablement aussi la partie immergée de l'iceberg. On a du mal à savoir exactement l'ampleur de la diffusion de ce phénomène. Mais assurément, les entretiens moi que j'ai pu mener avec des joueurs de tennis font état d'une diffusion encore bien plus large que ça, même si on a énormément de mal à avoir aujourd'hui une idée précise des contours de ce phénomène.
Est-ce qu'il y aurait dans le tennis, dans la discipline tennis, quelque chose qui, dans sa nature, qui le rendrait plus vulnérable à la corruption? Est-ce que le tennis est une cible idéale?
Alors, moi, je pense que oui. C'est pas le seul, mais il a, disons, le tennis réunit plusieurs éléments qui sont propices à se voir se développer des pratiques de matchs truqués. Alors, bon, il y a des éléments qui sont assez classiques. Évidemment, c'est un sport individuel. Donc, c'est même s'il y a déjà eu des matchs truqués dans le football, dans le handball, c'est plus difficile d'impliquer une organisation que d'avoir simplement un joueur à convaincre. Ensuite, c'est un résultat qui est binaire. Donc en tennis, on fait le point ou on ne le fait pas, on fait une double faute ou pas, on gagne un set ou on le perd. Et aujourd'hui, on peut parier sur des éléments très précis du match et pas uniquement sur l'issue du match. Donc c'est assez facile en fait en tennis de mettre un service dans le filet ou un retour dans le couloir, alors que dans des sports comme si je prends le cyclisme, le ski, enfin tous les sports en fait qui sont basés plutôt sur un classement, c'est difficile de s'arranger pour finir 4e ou 17e d'une course. Donc, ça c'est aussi un élément qui favorise ce type de pratique dans le tennis.
Alors peut-être on peut le détailler ensuite et puis on reprendra Bertrand Finker parce que ce point-là est important. Il peut y avoir effectivement deux types de fraudes dans le tennis, qu'on appelle le match fixing ou le spot fixing. Alors expliquez-nous un petit peu, vous nous avez déjà donné quelques éléments, mais bien clarifier les choses, la différence entre les deux, parce que visiblement, le deuxième, en l'occurrence le spot fixing, c'est pas forcément considéré de la même manière, en tout cas du point de vue des joueurs. C'est pas une aussi grave corruption, disons, que le match fixing. Alors expliquez-nous les choses.
Alors, le match fixing, c'est vraiment, c'est un pari qui concernerait l'issue du match. Donc, c'est finalement, c'est de décider qui va gagner, c'est s'arranger pour perdre le match. Maintenant, là, il y a des implications évidemment. Si on perd le match, on est éliminé du tournoi. Donc, ça peut être aussi des sources de pertes de revenus publicitaires, etc. Enfin, il y a toute une série de coûts associés à ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle en anglais le spot fixing, et là, on parie sur des éléments spécifiques du match. En tennis, par exemple, on peut parier sur la probabilité d'un tie-break, sur le nombre de double fautes, qui marquera le premier point dans le jeu, etc. Qui marquera le prochain point aussi, parce qu'il y a aussi dans le spot fixing, les paris pendant le match, le live betting, donc c'est ce qui aujourd'hui représente 60% du marché des paris légaux. Vous pariez vraiment en direct sur ce qui est en train de se passer. Et vous parliez de comment c'est reçu par les joueurs. Effectivement, on pourrait très bien imaginer des scénarios multiples et sans avoir à développer des trésors d'imagination, mais on pourrait imaginer deux joueurs qui décident de jouer un premier set, de gagner chacun leur service tour à tour, et de jouer le set au tie-break. Donc à ce moment-là, vous pariez, si vous voulez, avant le match, sur la probabilité que le premier set sera un tie-break. Et en tant que joueur, vous n'avez pas l'impression d'avoir faussé quoi que ce soit, puisque vous jouez honnêtement le gain du premier set. Vous jouez simplement le gain du premier set sur un tie-break.
Vous pensez que c'est répandu, ça, dans le tennis professionnel?
Alors, à nouveau, répandu, je ne sais pas dans quelle mesure c'est
répandu. Est-ce qu'il y en a, là, par exemple, en ce moment, à Roland-Garros, voilà?
Je pense que c'est possible. Oui, enfin c'est possible, c'est certain que ça existe, puisque des joueurs m'ont dit que ça existe, ils se font parfois solliciter, des joueurs me disent, j'ai parfois dans le vestiaire le joueur adverse qui me dit, écoute, voilà, j'aimerais bien que je vais te laisser gagner le premier set 6-3, et puis après on commencera à jouer sérieusement. Donc il y a des combines qui peuvent exister, et en toile de fond de tout ça, c'est la question de la précarité. Alors évidemment, on peut être un joueur qui n'est pas précarité, et qui se livre quand même à ce type de pratique, mais ce type de pratique sera d'autant plus courant dans les tournois Challenger et Futur, qui sont les deux niveaux de tournois les plus bas, c'est le niveau le plus bas de l'échelon dans le tennis professionnel, où les dotations de tournois sont assez faibles et où les joueurs sont les plus précaires. Et comme le joueur l'a dit Lucas Pouille, dans l'extrait que vous avez diffusé, mener une carrière de joueur, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut payer l'hébergement, il faut payer le transport, il faut payer son entraîneur. Et puis parfois, quand on prend un avion pour aller jouer en Amérique du Sud, à Tokyo, et puis qu'on est éliminé au premier tour, c'est des dépenses et se trouver des petites combines pour pouvoir faire face à tous ces frais, malheureusement quelque chose, une situation auxquelles peuvent être confrontés beaucoup de joueurs.
J'ai encore deux petites questions, une qui va être très rapide, je le sens, et puis ensuite je ferai réagir peut-être nos invités. La première qui va être très rapide, je pense, ces petites combines, donc ce phénomène de spot fixing, est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut représenter en termes de volume d'argent derrière tout cela? On a évidemment des paris, est-ce qu'on a une toute petite idée de ce que ça peut représenter? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Est-ce qu'il y a des outils, des dispositifs, des lois qui permettent justement de lutter contre ce trucage?
Ouais. Alors, sur l'ampleur, en fait, ce qu'il y a, aujourd'hui, le marché légal des paris sportifs, c'est difficile parce que c'est en évolution constante, on l'évalue à minima 100 milliards de dollars, les chiffres peuvent être abstraits, mais ça représente quand même une valeur supérieure au PIB de 2/3 des pays dans le monde, donc ça montre quand même que c'est important. Et le tennis, c'est environ 15% du marché légal du pari sportif. Mais en plus du marché légal, il y a un marché illégal du pari sportif, et ce marché illégal, il serait à minima, mais à nouveau, on ne sait pas très bien, parce que par définition, c'est difficile de chiffrer des phénomènes illégaux, mais selon Interpol, on serait déjà au-delà de 500 milliards de dollars.
500 milliards de dollars.
Donc déjà 5 fois plus que le marché légal du pari sportif.
D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ces trucs
prudence, mais ça donne une image de ce que peut être ce marché. Et on peut truquer des paris, truquer des matchs par l'intermédiaire de paris, pas nécessairement avec des très grosses sommes. Et ça, pour rebondir aussi sur votre première question, qu'est-ce qui fait que le tennis pourrait être un sport idéal? C'est que justement, dans la mesure où le tennis fait l'objet de beaucoup de paris, vous pouvez noyer, entre guillemets, un petit pari qui n'a pas une incidence énorme, on va dire, sur l'issue du match, dans un flot d'argent, un flux d'argent qui est important.
Carole Gomez, 500 milliards de dollars, on se dit que c'est une formidable machine à blanchir de l'argent, tout ça.
Exactement. Alors, il faut pas non plus sur les paris, sur les sites illégaux, on va trouver un certain nombre de personnes qui vont parier illégalement pour différentes raisons, mais on va aussi voir émerger de plus en plus la criminalité organisée qui passe par les matchs truqués. Qui passe par les paris sportifs pour justement blanchir de l'argent, puisque le taux de succès de blanchiment de l'argent va être beaucoup plus important quand on passe par le mécanisme des paris sportifs que par d'autres types de mécanismes. En gros, si je veux blanchir 100 euros, si j'utilise différentes techniques, je vais souvent avoir un taux de retour de 75 euros d'argent propre. Mmh. Si par contre je passe par le biais de sites illégaux surtout quand je connais le bon résultat du match, je vais potentiellement avoir un taux de retour extrêmement important et avoir sur ces 100 euros d'argent sale 95-99 euros d'argent propre qui seront parfaitement légaux. Donc c'est aussi ça montre la transnationalisation de la menace qui fait que une mafia japonaise, chinoise, ougandaise va pouvoir parier sur des matchs qui se passeront à Buenos Aires, à Poitiers ou à Washington.
Et ça n'inquiète pas et le public et peut-être les investisseurs. Enfin, quand on sait ça, peut-être que les gens qui mettent de l'argent sur le tennis, par exemple, au hasard, puisque c'est ça dont on parle, peuvent se dire que c'est pas forcément une bonne image et retire leur bille.
C'est un vrai sujet qui est aujourd'hui mis en avant. Le problème, c'est qu'on a assez peu encore d'informations sur ces affaires-là. Elles sortent au compte-gouttes et on a assez peu d'informations sur la façon dont ça s'est passé, sur l'ampleur de ces éléments. Et le chiffre que donnait Bertrand Finker tout à l'heure de 500 milliards de dollars, c'est quelque chose qui est tellement abstrait qu'on n'en saisit pas exactement tous les éléments. Mais effectivement, un certain nombre de fédérations internationales se sont saisis de ce sujet-là et ont compris que c'était potentiellement la fin de leur sport et de leur business s'ils ne se saisissaient pas très rapidement de cet élément.
Allez, j'ai une toute dernière archive à vous faire entendre, Carole Gomez. Je sais que vous êtes une amatrice, évidemment, de sport et peut-être en particulier d'athlétisme. Peut-être connaissez-vous Ralph Metcalf. Écoutez.
I've never been convinced that I was defeated. I think that it should have been a tie race because the timers gave me the same time as they get awarded to Eddie Tolan. I congratulated him and he congratulated me. And if you recall, it was flashed over the world that I had won because there's no question about me breaking the tape.
Voilà, Ralph Metcalf qui racontait ce fameux 100 mètres qui est un 100 mètres d'anthologie dans l'histoire de l'athlétisme et des JO. On est en 1932. Eddie Tolan d'un côté, Ralph Metcalf et puis d'autres. Mais les deux passent la ligne d'arrivée ensemble et les juges donnent la victoire à Tolan en utilisant d'ailleurs une photo finish. C'est la première fois, je crois, qu'on utilise une photo finish. Sauf que, en fait, cette victoire, elle est restée controversée très longtemps. Et depuis, on sait qu'en fait, c'est Metcalf qui aurait dû être proclamé vainqueur. D'autant que, visiblement, quand on regarde les choses, son plot de départ a été placé derrière celui de Tolan. Mais là où je veux en venir, Carole Gomez, c'est que ce qui est beau dans le sport, c'est l'incertitude.
Bien sûr.
Et que là, avec ce que vous êtes en train de nous décrire, à la fois les affaires de corruption, les paris en ligne, sans compter évidemment les différences de moyens financiers entre les clubs, etc., etc., elle est où l'incertitude ? Et la beauté du sport ?
L'incertitude, elle a tendance à être de plus en plus rognée sur différents sujets, avec la question de la corruption, du dopage également, ainsi que des matchs truqués. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que aujourd'hui, le sport n'a plus le choix. Et face à un enjeu qui est majeure et qu'elle va devoir affronter au risque de voir son empire sportif périr comme les autres empires sportifs, comme les autres empires ont pu périr auparavant.
Ai de quem desvia dinheiro público. Ai de quem só governa em causa própria, que jogo sujo. Ai de quem tira o sustento de nossos pais. É tanta maldade junta, mas isso tem que acabar. Isso vai ter que acabar.
Merci beaucoup à tous nos invités. Bertrand Finker qui était avec nous par téléphone, chercheur à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne. Merci à Hervé Renner qui était avec nous depuis Lausanne. Et je remercie d'ailleurs les techniciens qui ont permis de faire la liaison. Je rappelle que vous êtes maître d'enseignement et de recherche en sciences politiques à l'Université de Lausanne. Carole Gomez, un grand merci d'avoir été avec nous. Chercheuse à l'IRIS, co-auteur avec Sylvie Matelli de Argent Sale, à qui profite le crime ? Mais aussi de l'intégrité dans le sport. On se quitte avec ce morceau sur la question de la corruption et je vous le donne en mille, cette voix que vous entendez, alors pas celle-ci, celle qu'on entendait juste avant, c'est celle de Ronaldinho Gaucho, célèbre joueur brésilien qui est passé derrière du côté du PSG. On parlait du PSG tout à l'heure. Merci beaucoup Carole Gomez. 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et un nouveau livre de Ian Kershaw vient de paraître en anglais. Vous nous rappelez qui est Ian Kershaw ?
C'est l'un des plus éminents historiens britanniques de notre époque. Sa biographie d'Adolf Hitler en deux volumes, paru en français chez Flammarion, passe pour indépassable. Récemment, les éditions du Seuil nous ont donné une traduction du livre dans lequel il explique comment le régime hitlérien s'est radicalisé mais a tenu jusqu'au bout en organisant le contrôle impitoyable de l'armée et de la société allemande à partir de l'attentat manqué contre Hitler du 20 juillet 1944. Ce livre porte pour titre « La fin, Allemagne 1944-45 ». Bien, un autre livre de parution récente du même, Yann Kershaw, intitulé « L'Europe en enfer 1914-1949 » est paru, lui, au Seuil en 2016. Et de l'avis général, c'est un chef-d'œuvre. Alors bien sûr, l'histoire allemande, dont cet auteur est un spécialiste, y occupe une place décisive, mais ce volume couvre toute l'histoire européenne, y compris celle des pays d'Europe centrale et nordique, ce qui est assez rarement le cas. Il couvre en outre la Russie, puis l'URSS, et ce livre ne néglige pas davantage l'histoire politique, bien sûr, que celle de nos guerres, l'histoire économique, sociale, culturelle, démographique. Or, Kershaw vient de publier une suite à ce volume indispensable qui s'appelle « The Global Age » et elle couvre cette fois-ci la période 1950-2017. À nouveau un pavé de plus de 600 pages. Dans « The New York Review of Books », Anne Applebaum en dit beaucoup de bien. Une phrase prononcée par un secrétaire britannique d'État aux affaires étrangères le 3 août 1914 servait d'introduction au premier volume de cette histoire de l'Europe contemporaine. « Les lampes s'éteignent partout en Europe. Nous ne les verrons plus allumer le restant de notre vie. » Et bien cette fois, c'est encore un politicien anglais qui annonce la couleur des années d'après-guerre en Europe, Winston Churchill en personne. Depuis Stettin sur la Baltique jusqu'à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer est tombé sur le continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États d'Europe centrale et orientale, Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia. Nous ignorons tout de ce qui se passe derrière.
Et Brice, pour Anne Applebaum, l'année décisive, celle par laquelle Kershaw aurait peut-être dû entamer son histoire, c'est 52. Pourquoi 52?
Eh ben, en 52, parce que tombe la condamnation à mort du secrétaire général du PC tchécoslovaque pour participation, je cite, à un complot sioniste, titoïste, trotskiste. Staline vieillissant vit ses derniers mois, mais il devient de plus en plus paranoïaque et une terreur absurde s'abat sur les peuples restés de l'autre côté du fameux rideau de fer. Le président américain Truman, à la même époque, prévient le Congrès des États-Unis qu'une terrible menace d'agression plane sur l'Europe occidentale et il obtient d'autoriser l'Allemagne fédérale à se réarmer au sein de l'OTAN pour y faire face. Mais cette même année 1952, Staline fait aux Allemands de l'Ouest une proposition inattendue, la réunification. À condition de se déclarer neutre et il promet de respecter, je cite, « la libre activité des partis démocratiques ». Bien des Allemands de l'Ouest jugent l'offre alléchante, mais le chancelier Konrad Adenauer refuse. Il n'ignore pas que Staline avait fait la même promesse aux Polonais et qu'il a installé dans ce pays une dictature communiste. En outre, le chancelier considère comme encore fragile la démocratie dans son pays et c'est pourquoi il veut arrimer solidement la RFA à l'Ouest. Il se prononce pour le maintien des troupes alliées sur son territoire, y compris celles des vieux ennemis français. La même préoccupation lui inspire la participation de l'Allemagne de l'Ouest à la communauté européenne du charbon et de l'acier, puis à la communauté économique européenne, l'ancêtre, on le sait, de notre fameuse Union européenne. Eh bien, durant les 40 années suivantes, écrit Anne Applebaum, les nations d'Europe occidentale se rassembleront autour des mêmes choix, la démocratie plutôt que la dictature, l'intégration plutôt que le nationalisme, l'économie sociale de marché plutôt que l'économie socialiste étatisée. En même temps, ces pays restructurent leurs économies capitalistes et connaissent tout en même temps des succès économiques qui leur permettent d'installer de solides états-providence. Leur performance contraste avec les crises à répétition qui secouent et font capoter les pays situés de l'autre côté du rideau de fer. Ces succès économiques nourrissent une créativité culturelle remarquable et Kershaw s'enthousiasme pour Günter Grass, Camus, Fellini, les Beatles ou Christian Dior. L'Europe redevient à cette époque l'un des centres culturels les plus attractifs du monde. En Europe de l'Est aussi, on voit fleurir les talents, les films de Vajda, István Csabó, les romans de Kundera, les récits de voyage de Kapuscinski. Mais la plupart de ces créateurs de l'autre côté cherchaient non pas à illustrer les mérites de la civilisation soviétique, mais au contraire à y échapper, à rejoindre l'autre côté. Tchèques et Polonais, lorsqu'ils furent autorisés à dire ce qu'ils pensaient, répondaient « vivre normalement ». Et normalement, cela voulait dire comme en Europe de l'Ouest. Et c'est pour intégrer l'OTAN puis l'Union européenne que ces peuples ont accepté d'intégrer quantité de normes qu'ils ont renoncé à une partie de leur souveraineté à peine recouvrée. Mais voilà, la croyance en la supériorité de l'Ouest a été sérieusement ébranlée par la crise de 2008. Depuis, le doute s'est installé. Le modèle Ouest européen reste-t-il la meilleure des options disponibles ? Et c'est pourquoi notre Europe est en crise.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture.